de l'âme, il n'y a pas d'égalité. Difficile d'évoluer en toute l'égalité que nous avons enduré.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. La mise en application de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 est encadrée par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg depuis 1959. À Strasbourg se trouve également un barreau très actif. Mon invité aujourd'hui est un avocat strasbourgeois spécialisé dans le droit de la santé. Il a plaidé des affaires à la Cour européenne des droits de l'homme et il intervient également en tant qu'expert dans le droit pénal, Maître Jean Payot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur en droit de la santé et avocat engagé dans ce domaine. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé votre choix de cette spécialité?
Alors, je ne suis pas un spécialiste au sens strict du terme. C'est une activité dominante de mon cabinet qui est importante depuis de nombreuses années. Quand j'ai effectué mes études de droit à Strasbourg, en DEA, j'avais pour professeur Mme Danielle Huetweiler, qui était la grande professeure de droit de la famille. Et l'année de notre DEA, elle proposait un cours sur le corps humain et le droit. Nous étions en 1991, alors qu'il n'y avait pas encore de loi de bioéthique en France. Et c'était un cours qui était passionnant, qui m'a passionné, et qui est à l'origine de mon souhait de travailler de manière plus importante les sujets de bioéthique. Après, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un cabinet qui faisait plutôt du droit des affaires, du droit de l'entreprise, du droit international. Et j'ai en réalité très peu eu d'activité dans le domaine de la bioéthique. C'est venu par la suite, dans la deuxième partie de mon activité professionnelle, quand j'ai créé mon propre cabinet et que j'ai développé cette branche du droit de la santé et de la bioéthique.
Ok. Alors, vous avez écrit de nombreux articles relatifs à la question de la fin de vie, notamment. Pourquoi l'intérêt pour ce sujet?
J'ai une sœur aînée qui est médecin gériatre et engagée dans une communauté de l'Église catholique, qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel. Et elle est à l'origine, elle aussi, d'un colloque de bioéthique qui a lieu chaque année à Paray-le-Monial. Et dès la première année, elle m'avait demandé de réfléchir sur les sujets de fin de vie. Et petit à petit, donc j'ai travaillé sur ces sujets, je suis intervenu dans différents colloques, j'ai un petit peu écrit. Et puis, la loi Leonetti est arrivée en 2005. Je me suis un peu spécialisé dans cette loi. J'ai fait beaucoup d'interventions également sur le sujet. Et puis évidemment, la chose est devenue d'autant plus importante lorsque l'avocat de la famille de Vincent Lambert m'a demandé d'intervenir en qualité de bon spécialiste de la loi Leonetti, d'intervenir à ses côtés un peu en qualité de sachant. Voilà. Et donc, depuis lors, évidemment, ce cas particulier de Vincent Lambert m'a amené à intervenir sur un certain nombre d'autres cas similaires en France.
Ok. Et que prévoyait la loi Leonetti?
La loi Leonetti, en fait, est une réponse à un cas jurisprudentiel antérieur qui concerne non pas Vincent Lambert, mais Vincent Humbert. Et dans cette situation très malheureuse où la mère et le médecin de Vincent Humbert ont fini par tuer cet homme, la loi Leonetti est venue essayer d'apporter une réponse. Et la première réponse, c'est que en fait, l'euthanasie n'est pas admise en droit français. La première réponse de la loi Leonetti, c'est pas tellement ce qu'elle écrit, c'est ce qu'au contraire elle ne dit pas. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'euthanasie serait admise. Donc l'euthanasie en droit français au jour d'aujourd'hui n'est toujours pas admise. Et souhaitons que ça reste le cas pendant encore longtemps. La loi Leonetti a prévu que pour les personnes en fin de vie ou pour les personnes gravement malades, il était possible d'arrêter leur traitement ou de ne pas en prendre de nouveau, dans le cas où un acte médical serait considéré comme inutile, comme disproportionnée ou comme n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ce sont les trois critères que la loi pose. La loi Leonetti demande également à ce qu'on prenne en compte les directives anticipées du patient et s'il n'en a pas, donne la parole à la personne de confiance. Et à défaut de directives anticipées de personnes de confiance, à la famille, pour qu'une évaluation soit faite de ce que la personne aurait souhaité, aurait voulu dans un tel cas de figure.
Et comment est-ce qu'on détermine la personne de confiance ?
C'est le choix du patient. Le patient désigne lui-même une personne de confiance. Le problème est que parfois, il n'a pas la possibilité d'en choisir, parce que, comme dans le cas de Vincent Lambert, s'il y a eu un accident de la circulation, on n'est peut-être plus en état de nommer une personne de confiance. Mais par exemple, vous allez à l'hôpital pour vous faire opérer dans le cadre d'une opération prévue de longue date, on va vous demander, le cas échéant, de choisir une personne de confiance si vous le souhaitez. Et là, vous avez tout le temps d'y réfléchir. Donc c'est important de nommer une personne de confiance et une personne en qui précisément vous avez confiance, une personne en qui vous avez surtout confiance qu'elle va pouvoir répondre au médecin à votre place conformément à ce qui aurait été votre souhait le plus important. Donc c'est quelqu'un qui doit vous connaître et puis il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui connaisse un peu l'univers médical aussi. Hein. Parce que parfois, on a des opinions, des idées, des convictions sur la personne, et puis il n'y a pas de vrai discours ou de vraie communication avec le médecin, parce que lui est décidé à faire ceci ou cela. Il faut arriver à une vraie communication avec le médecin. Donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui connaisse un peu le monde médical.
Donc, dans le cas précisément de Vincent Lambert, comment le tribunal a-t-il décidé entre les parents d'un côté et le conjoint de l'autre qui devait prendre la décision ?
Alors, ça va être difficile d'y répondre parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps et que l'affaire a duré 6 ans et que ça a été une affaire très longue et très complexe. Sur ce point particulier, c'était pas difficile de statuer. Puisqu'il n'y avait pas de directives anticipées, il n'y avait pas de personne de confiance, et donc la décision, enfin pas la décision, l'avis doit être donné par la famille. Il y a eu 4 procédures collégiales le concernant. La première procédure collégiale, nous l'avons fait annuler parce que l'avis n'avait été donné que par l'épouse. Et le tribunal a considéré de manière très juste que c'est la famille et que la famille ne se réduit pas à l'épouse. La difficulté dans le cas de Vincent Lambert, c'est que sa famille n'était pas d'accord sur ce qu'il y avait lieu de faire. Dans la plupart des cas que j'ai à traiter, la famille est unanime. Mais il faut que nos auditeurs soient bien conscients que la loi Leonetti n'accorde qu'au médecin et à un seul médecin le choix final, le choix de maintenir un traitement ou de l'arrêter en raison du caractère déraisonnable ou prétendument déraisonnable de celui-ci. C'est le seul médecin qui décide. Mais pour que la décision du médecin soit pleinement éclairée, ce médecin doit prendre l'avis d'un autre médecin, de son staff médical et l'avis de la famille, dans l'hypothèse où il n'y a pas de personne de confiance ou bien pas de directives anticipées. Donc la famille, dans ce cas de figure, elle est chargée de donner un avis. Si l'avis n'est pas unanime, eh ben, l'avis, il est pas unanime, mais l'avis des uns et des autres va être pris en compte. Mais de toute façon, ce n'est pas cet avis qui va primer, c'est in fine la décision du médecin. Ça, c'est ce que dit la loi. La difficulté dans le cas de Vincent Lambert, c'est que le traitement dont il était question était un peu particulier parce que c'est en réalité son alimentation, une alimentation entérale. La question était de savoir s'il fallait arrêter son alimentation alors qu'il respirait seul, que son cœur fonctionnait seul, que ses reins fonctionnaient seuls, qu'il n'y avait aucune difficulté à ce que tous ses organes fonctionnent. Donc Vincent n'était pas bardé de tuyaux un peu partout ou d'un respirateur artificiel, pas du tout. Tout chez lui fonctionnait correctement. Voilà. La difficulté, c'était donc, comme il n'y avait pas d'autre moyen d'arrêter sa vie, c'était de se demander si son alimentation entérale ne constituait pas un traitement. Et le tribunal a considéré que cela constituait un traitement. Là où les choses étaient un peu compliquées, c'est que la loi Leonetti prévoyait des droits nouveaux pour des personnes malades et des personnes en fin de vie. Or, Vincent Lambert n'était ni malade ni en fin de vie. Et le tribunal a considéré néanmoins que dans sa situation d'handicapé, cette loi s'appliquait. Elle n'avait pas été prévue pour les personnes handicapées et les critères applicables aux personnes malades ou en fin de vie ne sont pas forcément les mêmes critères pour les personnes handicapées. Donc la question majeure dans ce cas de figure, c'était faut-il arrêter ou est-il légitime d'arrêter l'alimentation d'une personne gravement handicapée au prétexte que le maintien de son alimentation serait devenu déraisonnable. Il a fallu 6 ans de procédure pour que le médecin arrive à obtenir que cet arrêt soit effectif, et ce, nonobstant, in fine, notre saisine d'un comité des droits de l'homme de l'ONU, le comité des droits des personnes handicapées, qui avait demandé instamment que l'on maintienne l'alimentation de Vincent pendant l'examen de son dossier devant cette instance. La France a refusé de le faire. Elle risque d'être condamnée par l'ONU pour avoir passé outre les mesures provisoires qui avaient été réclamées par ce comité de l'ONU. Mais voilà, Vincent est mort le 11 juillet 2019. Et évidemment, à titre personnel, mais je pense que c'est un sentiment qui est celui aussi d'une grande partie de sa famille, c'est de dire quel gâchis. Quel gâchis, et quel gâchis humain, quel gâchis médical et quel gâchis juridique. C'est dramatique et honteux d'avoir dû réaliser 4 procédures collégiales pour arriver à mettre fin à l'alimentation de ce garçon qui était juste handicapé. Est-ce que la société n'a pas mieux à proposer que l'arrêt de l'alimentation d'une personne gravement handicapée ? On est, concernant ce garçon, en face de questions qui, en réalité, sont des questions sociétales ou des questions philosophiques, et pas seulement des questions juridiques. Moi, mon intervention dans ce dossier a été purement et exclusivement juridique. Mais clairement, derrière, la question se pose de savoir quelle société nous voulons. Est-ce que c'est la société du maillon faible, la société du Kleenex, la société de la personne dont on se débarrasse parce qu'elle n'a plus d'intérêt, elle n'apporte plus rien? Je me rappelle de grandes déclarations d'un certain nombre de personnes disant « mais il ne sert à rien, il n'est même plus une personne ». Cesser de le considérer comme quelqu'un d'encore vivant. Il est déjà du côté des morts vivants. Et c'est inadmissible. On ne peut pas parler de cette façon d'une personne, a fortiori, gravement handicapée. Voilà. Quelle est la place et quel est notre regard vis-à-vis des personnes handicapées, y compris lourdement handicapées? Moi, je trouvais que la position de la France, juste avant l'émergence de cette affaire, était une position plutôt de bon sens, qui consistait à dire « eh ben, on va prévoir dans chaque département 8 lits spécialisés pour ce type de personnes. Personnes en cérébro-lésées, en état de conscience altérée, qui ont du mal à communiquer ou qui n'arrivent pas du tout à communiquer ou un petit peu à communiquer avec leur entourage. Vincent n'arrivait pas à communiquer. » C'est pas pour ça qu'il était insensible à tout ce qui se passait autour de lui. Et donc, on avait des structures spécialisées. Voilà. On a encore des structures spécialisées. On en a une près de Strasbourg, à Oberhausbergen, qui fait un travail absolument remarquable. J'ai travaillé avec un certain nombre de médecins de cette filière des personnes cérébro-lésées ou avec des associations familiales de personnes traumatisées crâniens qui font un travail exceptionnel et avec une prise en charge humaine remarquable. On avait un travail de médecin jusqu'à présent dans ce domaine qui était parmi les meilleurs au monde. Et cette affaire Vincent Lambert a été traumatisante pour ses familles et pour ses médecins. Les familles disant Mais mon enfant, ou mon mari, ou mon père, ou ma mère, ils sont pas comme Vincent Lambert, hein. Vous savez, lui, il va bien, hein. Faut pas arrêter son alimentation. Et donc, pour beaucoup, c'était un vrai traumatisme. Pour beaucoup de médecins, ça a été une remise en cause de 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail pour le compte de ce type de personnes handicapées, avec lesquelles ils arrivaient à les sortir de leur silence, de leur enfermement en matière de communication, et avec des résultats parfois très surprenants dans un travail main à main avec la famille. Donc le seul fait de dire aujourd'hui il sert plus à rien, on n'arrive à rien, donc il faut arrêter leur alimentation, c'est mieux qu'ils disparaissent. Non, c'est pas quelque chose de correct, et je suis navré de la façon dont les choses se sont passées. Et je pense que la France, surtout pour des raisons politiques, peut-être même idéologiques, s'est fourvoyée dans le cas de Vincent Lambert. Et malheureusement, la conséquence, c'est une diminution des droits des gens au regard de ce qui s'est passé dans cette affaire.
Alors justement, parlant des droits des gens, je voulais, si vous voulez bien, revenir à la définition du droit de la santé. Vous avez beaucoup parlé de bioéthique, et en quoi c'est différent ou en quoi c'est compris dans le droit de la santé ?
C'est une partie du droit de la santé au sens général, dans la mesure où on travaille sur le vivant, sur l'être humain, on parle en je n'aime pas beaucoup parler de bioéthique. C'est vrai que c'est moi qui ai utilisé ce terme jusqu'à présent, en référence aux diverses lois bioéthiques dénommées comme telles par les différents gouvernements français depuis 1994, avec les deux lois de 1994, 2004, 2011, etc. En fait, je suis de plus en plus mal à l'aise avec l'utilisation du terme bioéthique parce que je vois de moins en moins d'éthique dans la réflexion qui concourt aux décisions prises ou aux votes au Parlement. Donc moi, j'utilise beaucoup plus aujourd'hui le terme de pratique biomédicale. Parce que je pense que c'est beaucoup plus proche de la réalité. On travaille sur le biomédical, on essaye de déterminer des dispositions applicables, mais je suis désolé de dire, on est quand même très loin de l'éthique. Donc, ou alors, il faudrait qu'il y ait une vraie réflexion éthique et pas simplement un passage quasi obligé par le Comité consultatif national d'éthique, dont la réflexion éthique est également sujette à caution. Et je dis les choses de manière très diplomatique et simple, mais voilà, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Si on veut une réflexion éthique, il faut prendre les outils éthiques qui existent. Voilà. Mais quand c'est juste un vernis destiné à faire bien et beau dans le décor, ça n'a plus aucun sens. Donc utilisons les mots tels qu'ils sont. On parle plus de bioéthique, on parle de pratique biomédicale. Et vous voyez que le mot biomédical nous rapproche tout de suite du droit de la santé. Hein. C'est une des parties du droit de la santé. Voilà. Alors, on a le domaine de la santé personnelle, des rapports avec le médecin, on a tout le domaine de la santé publique. On en a tellement parlé avec les crises du Covid que tout le monde et chacun sait de quoi il retourne. Voilà, les politiques de prévention en matière de santé publique sont un chapitre évidemment très important également. Après, en tant qu'avocat, c'est plutôt la question des relations privées entre un patient et son médecin qui est en question et qui est souvent l'objet de contentieux en matière de responsabilité. Un médecin a commis une erreur médicale, une erreur de diagnostic. Voilà, comment va-t-on la réparer ? Mais évidemment, il y a bien d'autres aspects encore. Il y a tout le domaine de la déontologie des différents professionnels de santé, leur façon de construire les cadres juridiques, leur permettant d'exercer en association, en société, etc., etc. Voilà. Bon, c'est un domaine très vaste.
Effectivement. Alors, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un droit à un accès aux soins ?
Oui, bien sûr, il y en a. C'est un droit collectif. En réalité, c'est un droit inversé. En réalité, c'est un devoir de l'État de faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux soins. Voilà. Donc, faut plutôt le prendre comme un devoir de l'État plus comme un droit de chacun. Voilà. Et donc, l'État peut être mis sa responsabilité peut être mise en cause, le cas échéant, s'il ne met pas tous les moyens pour qu'il y ait effectivement un accès raisonnable de chacun à des outils de santé. Oui, bien sûr.
Oui, j'ai vu dans la presse quelques cas où des patients en attente aux urgences décédés faute de soins. Oui. Pensez-vous qu'il y a négligence dans ce genre de situation?
Une personne qui meurt aux urgences, c'est pas quelque chose de nouveau. Une personne qui meurt aux urgences parce que personne ne s'occupe de cette personne pendant 20 heures, là, c'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Ça montre qu'il y a un service qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas correctement. C'est l'occasion de mettre en évidence le fait que l'hôpital public change beaucoup depuis quelques années, qu'on a supprimé de nombreux lits d'hôpitaux, mais que on fait face aussi à un manque de personnel absolument sidéral. Et que très souvent, on a affaire aussi à des étudiants ou à des médecins venant de l'extérieur. Étrangers à la France, avec toutes les difficultés en termes de communication que cela peut, le cas échéant, impliquer. On a ici un vrai débat collectif, qui est même pas juridique, qui est politique, sur l'état très dégradé de notre hôpital public. Et ce, alors qu'on a des professionnels qui peuvent être d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Donc, on a un outil qui est très dégradé aujourd'hui. Je ne suis pas le mieux placé pour dire ce qu'il faudrait faire. Je constate une situation très dégradée et effectivement des accidents, entre guillemets, du type de celui que vous évoquez. C'est malheureusement pas le seul. Heureusement, tout le monde ne meurt pas, mais des gens pris en charge tardivement, des pathologies qui ont le temps de s'aggraver parce qu'ils ne sont pas correctement pris en charge, c'est effectivement des questions vraiment problématiques. Voilà. On doit réfléchir à notre système de prise en charge des urgences. Voilà.
Ok. Et concernant la Cour européenne des droits de l'homme, quels sont les articles qui reviennent régulièrement dans ce domaine?
Mais, d'abord, ça dépend des pays qui se retrouvent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, si on parle simplement du droit de la santé, fondamentalement, on a l'article 2 hein, qui protège et garantit le droit à la vie. Et puis on va dire l'article 8 hein, qui garantit le droit à une vie familiale. Il peut y avoir d'autres articles, le principe de non-discrimination, il peut y avoir l'article 3 sur les...
l'interdiction des traitements inhumains et dégradants.
Mais ça dépend en fait des cas particuliers qui sont soulevés. Dans l'affaire de Vincent Lambert, on avait soulevé l'article 2 et l'article 3, l'article 8 et l'article 13. Donc on peut soulever des palettes relativement larges d'articles qui nous paraissent significatifs pour défendre les droits fondamentaux d'une personne. Mais voilà, c'est plutôt ceci. Après... En droit de la santé, ça peut toujours être un article 6 sur le droit à un procès équitable, y compris en temps. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut être significatif aussi. Après, ça dépend encore une fois des États en question.
Oui,
s'agissant... Pour la France, c'est plutôt ces articles-là qui sont soulevés.
Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un arrêt en dehors de l'affaire Vincent Lambert, est-ce qu'il y a un arrêt de la CEDH qui vous a particulièrement marqué?
Comme j'ai beaucoup travaillé sur les questions de fin de vie, il est clair que l'arrêt Preti, qui était un arrêt concernant une Anglaise, a eu un certain retentissement sur moi. La cour disant que, quelle que soit l'affaire Pretty, c'était une femme qui demandait directement ou par son entourage à ce que si elle bénéficiait d'une aide active à mourir, il fallait que les proches qui l'aidaient à mourir ne soient pas poursuivis. Et la Grande-Bretagne, dont les tribunaux avaient été saisis de la question, avait dit bah non, on peut pas vous garantir ça. Hein, vous n'avez pas de droit à mourir, et si vos proches vous aident, ben ils risquent d'être poursuivis. Elle avait ensuite saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait globalement répondu la même chose, quelle que soit la sympathie ou la compassion qu'on peut avoir pour Madame Pretty en raison de son état de santé, on ne peut pas tirer de l'article 2 garantissant le droit à la vie un droit à la mort ou un droit à mettre fin à sa propre vie directement ou par personne interposée. Voilà. Et donc c'est un arrêt qui est évidemment important, qui a été l'occasion de rappeler que on n'est pas propriétaire de sa vie. C'est quelque chose qui nous est donné, mais on n'en est pas propriétaire, on ne peut pas en faire ce qu'on en veut. Et tout ne dépend pas que de nous, et a fortiori encore moins des gens qui nous entourent. Je considère que la Cour a refusé ici non seulement de reconnaître un droit à l'euthanasie, mais même un droit au suicide assisté. J'entends souvent dire, mais quand même, le suicide assisté, c'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Ce qui est un droit fondamental, c'est la vie, c'est le respect de la vie. C'est pas la possibilité de choisir ce qu'on de mourir ou la façon de mourir. Ça relève peut-être de la liberté, ça relève peut-être du choix des différents États en la matière, ce qu'on relève de la libre appréciation des États, comme selon la formule consacrée par la Cour européenne, mais c'est pas un droit fondamental. Voilà. Donc le droit fondamental, c'est le respect de la vie. Donc dans toutes les discussions qu'on a encore aujourd'hui, puisque le président de la République semble vouloir ouvrir un débat sur l'ouverture de l'euthanasie en droit français, là encore, on est dans un sujet où on n'est pas face à un droit fondamental. On est en présence d'une libéralisation, d'une liberté accordée contre un droit fondamental. C'est exactement le même processus qu'en ce qui concernait l'interruption de grossesse. Le principe, c'est le respect de la vie de l'être humain, y compris embryonnaire. C'est notre fameux article 16 du Code civil depuis 1994. L'exception, c'est l'impossibilité de recourir à une interruption de grossesse. Donc, le principe, c'est le droit à la vie, le principe de dignité. L'exception, c'est la possibilité, dans certains cas prévus par la loi, de faire ceci ou cela. Ici, une interruption de grossesse, là, un arrêt de vie par euthanasie ou suicide assisté. Mais le principe, ça reste le droit à la vie. Alors, vouloir faire de l'exception un principe lui-même, c'est une erreur juridique. C'est pas seulement une erreur philosophique, c'est d'abord une erreur juridique. Le droit fondamental, c'est la vie.
Le droit fondamental, c'est la vie. Merci d'être venu nous éclairer sur le droit à la vie et non pas à la mort. Maître Jean Payot, à dans 2 semaines.